camarades, travailleuses, travailleurs. Avant tout, évidemment, comme l'a dit Vincent, je tiens à excuser Nathalie Arthaud, qui a été empêchée de venir ce soir en raison d'un grave problème familial. Malgré cela, elle tient à transmettre par mon intermédiaire son salut à tous les camarades et les amis présents dans cette salle. Et elle m'a donc chargée de présenter ce qu'elle avait l'intention de vous dire ce soir. Alors, comme vous le savez, puisque la presse n'a parlé que de cela, Trump est sorti vainqueur des élections il y a 10 jours et sera le futur président des États-Unis. C'est un milliardaire, un héritier qui a fait fructifier son argent dans la promotion immobilière et s'est fait connaître dans la télé-réalité. Il a mené une campagne aussi vulgaire que démagogique. Il a étalé sa fortune, s'est vanté de ne pas payer d'impôts. Il ne s'est pas caché non plus d'être sexiste et raciste. Il a multiplié les propos outranciers contre les immigrés, contre les Mexicains. Son programme, sauf baisser les impôts, personne ne le connaît vraiment parce qu'il a dit tout et son contraire. Et il a gagné. La frange la plus réactionnaire de l'électorat républicain traditionnel s'est sans doute reconnue dans ses diatribes anti-immigrés et anti-avortement. Mais surtout, Trump a gagné parce qu'il incarnait le candidat anti-système et la rupture, quand Clinton, elle, incarnait l'establishment et portait la responsabilité de décennies de recul pour la classe ouvrière. Comme en France, la crise aux États-Unis remonte aux années 1970 et elle s'est aggravée brutalement avec la crise de 2008. Fermeture d'usines, licenciements, renégociation des contrats de travail avec encore moins de droits pour la retraite ou pour se soigner, multiplication des petits boulots, expulsion locative par millions, la condition ouvrière a fait un nouveau bond en arrière en marginalisant des millions de femmes et d'hommes et en faisant craindre le pire aux autres. Alors Trump a su canaliser une partie des mécontentements et des frustrations en se posant en candidat anti-système, en parlant même d'envoyer Clinton en prison. Mais il est évident que Trump gouvernera au profit du grand capital américain. Dénoncer le système en visant seulement le système politicien ou médiatique est une tromperie. Oui, nombre de politiciens sont corrompus, mais ce n'est pas là la cause de la dégradation de la condition ouvrière. Les conditions de travail et de vie des classes populaires reculent partout dans le monde du fait du système capitaliste. Parce que la classe capitaliste domine l'économie et impose sa course effrénée au profit et à la compétitivité. Parce que cette économie capitaliste est basée sur l'exploitation et la concurrence. Derrière le cirque électoral auquel nous venons d'assister aux États-Unis, avec toute sa dramatisation sur le séisme, la catastrophe que constituerait l'élection de Trump, il y a justement la préservation du système, le système capitaliste. C'est dans cette période de crise économique que l'absence d'un parti ouvrier est la plus grave. Alors que le grand patronat attaque sur tous les fronts et bouleverse la vie de millions de femmes et d'hommes, les travailleurs ont besoin de perspectives politiques. Ils n'en trouvent pas, faute de partis communistes révolutionnaires offrant la perspective de renverser la domination de la classe capitaliste en l'expropriant. Le chômage de masse, les inégalités, l'aggravation de l'exploitation ne peuvent conduire qu'à plus d'individualisme, au repli sur soi, au rejet de l'autre, quand tout cela n'est pas contrebalancé par l'objectif de se battre collectivement pour se défendre. Et tout cela ne peut qu'alimenter la montée des idées réactionnaires et servir les démagogues, Trump aux États-Unis, Le Pen ici. C'est tout le drame de la situation. Il manque de véritables partis ouvriers capables de représenter les intérêts matériels et politiques des travailleurs. C'est pourquoi nous devons nous battre plus que jamais pour avancer sur la voie de la construction de ce parti. Ce combat pour la construction d'un parti communiste révolutionnaire implique bien sûr de participer au combat politique que sont les élections. Nathalie Arthaud sera candidate à l'élection présidentielle pour faire entendre le camp des travailleurs, pour permettre aux travailleurs conscients des responsabilités du patronat dans la dégradation de la condition ouvrière de les dénoncer, pour leur permettre de rejeter tous ces candidats qui, du PS au FN, aspirent tous à gouverner pour le compte du patronat. Nous avons été des centaines de milliers de salariés, du privé comme du public, à nous battre contre l'augmentation du temps de travail, contre la précarité, contre les mensonges patronaux sur le prétendu dialogue en entreprise lors de la mobilisation sur la loi El Khomri. L'immense majorité des travailleurs a été solidaire de ce mouvement et s'est reconnue en lui. Eh bien maintenant, il faut exprimer ses intérêts de classe dans les élections. Il y a 6 millions de chômeurs et les cadences et la charge de travail ne cessent d'augmenter. La pression des cadres et des chefs est de plus en plus insupportable dans les entreprises. Les salaires sont bloqués au SMIC et ne permettent pas de joindre les deux bouts. Les loyers, toutes les factures d'eau, d'électricité, les assurances, tout s'envole quand nous, on a de moins en moins pour vivre. Alors dans cette élection, nous appelons les travailleurs à affirmer la nécessité de prendre sur les profits pour garantir les emplois, pour répartir le travail entre tous, de façon à combattre le chômage. Nous les appelons à affirmer la nécessité d'augmenter les salaires et les pensions de retraite, d'affirmer que l'argent qu'il y a dans les entreprises, il faut le contrôler sans se fier aux propos du patronat qui nous ment comme un arracheur de dents. Nous appelons à un vote de classe, à un vote de combativité ouvrière. Crise ou pas crise, la classe capitaliste continue d'accumuler les profits. La grande bourgeoisie continue à s'enrichir avec la collaboration active de tous les gouvernements. Alors nous devons affirmer que les travailleurs ont le droit et le devoir de défendre leur peau. Nous appelons les travailleurs à affirmer que le monde du travail n'a pas à être sacrifié sur l'autel du grand capital. Non seulement les discours des uns et des autres, parmi le personnel politique, dans cette campagne électorale, n'ont rien à voir avec les intérêts des travailleurs, mais avec la question du terrorisme, avec la question de Calais et des migrants, et les manifestations de la police aussi, la campagne a pris un cours démagogique, sécuritaire, anti-immigré et xénophobe. Et cela sans même que Le Pen n'entre pour l'instant réellement dans la danse. Derrière cette démagogie, destinée à faire diversion, il se cache une politique férocement anti-ouvrière. On le voit avec la primaire de droite et le défilé des candidats. Bon, et nous, on rate le débat, voilà, mais on sait ce qu'ils vont dire. Parce que vous les avez tous entendus. Sarkozy, Juppé, Fillon, Le Maire, Copé ou encore Kosciusko-Morizet, ils rivalisent de courbettes devant le patronat. L'un promet 21 milliards de cadeaux au patron, l'autre 34 milliards, 40 pour le troisième. Et ils sont bien sûr tous d'accord pour reculer encore l'âge de la retraite, pour mettre fin aux 35 heures, pour supprimer des centaines de milliers de postes de fonctionnaires, pour diminuer les indemnités chômage. Et j'oublie leurs idées originales du genre privatiser Pôle emploi, supprimer le statut de fonctionnaire pour les enseignants, ou imposer des jobs à 5 euros de l'heure. Mais si la droite peut présenter des programmes aussi anti-ouvriers, c'est que les socialistes au pouvoir ont préparé le terrain. Avec 40 milliards de cadeaux au patronat, avec le démantèlement du code du travail, le travail du dimanche, la généralisation des accords de compétitivité. En fait, la droite ne fait que reprendre le travail là où le laisse Hollande, Valls et Macron. Et ils se passent le relais. En 2012, Hollande a pris le relais de Sarkozy en prolongeant sa politique anti-ouvrière. La droite, aujourd'hui, se prépare à reprendre le flambeau pour pousser le bouchon plus loin. Hollande, Sarkozy, Juppé se préparent tous à gouverner pour le compte de la bourgeoisie. Sans parler de Macron, cet ancien banquier, qui vient de se déclarer candidat et qui ose se présenter au nom du changement. Et Le Pen aussi aspire à la même chose. Le FN n'a pas eu l'occasion de le démontrer en accédant au gouvernement ces dernières années. Alors, certains autour de nous, on l'entend, se disent qu'il faut peut-être l'essayer. Mais comme Hollande et Sarkozy, Le Pen défend une politique pour aider le patronat, pour baisser, comme elle dit, le coût du travail, pour faciliter la compétitivité et les profits patronaux. Comme les autres, elle parle d'augmenter le temps de travail et explique qu'il n'est sûrement pas question d'augmenter le SMIC. Et puis, si le Front National n'a pas le passif de la gauche et de la droite au gouvernement, il a quand même un passé politique. Le FN, c'est la France de Vichy et de l'Algérie française, derrière la grosse épaisseur de maquillage actuelle. Le Pen père a été élu député en 1956. À l'époque, il était parachutiste torsionnaire en Algérie. Aujourd'hui, le père Le Pen, il a été mis de côté, mais au cœur du Front National, il y a toujours les mêmes idées, l'anticommunisme, l'hostilité aux syndicats, aux grèves, aux travailleurs qui se battent. Pour dénoncer les migrants, les pauvres parmi les pauvres, Marine Le Pen n'a pas de mots assez durs. Mais quand il y a une lutte contre les vrais privilégiés, contre les riches, dont elle fait partie, elle est de l'autre côté de la barricade, du côté de l'ordre et du gouvernement. Et on l'a vu, hein, lors des grèves et des manifestations du printemps contre la loi travail. Et souvenez-vous comment Marion Maréchal Le Pen, la nièce, a traité les salariés d'Air France de voyous qu'il fallait mater avec l'armée. Alors, quand on appartient au monde ouvrier, voter pour Le Pen, Sarkozy, Juppé ou Hollande, c'est voter contre son camp, c'est voter contre ses intérêts, c'est tendre le bâton pour se faire battre. Dans cette élection, il faut affirmer nos droits de travailleurs, notre conscience d'appartenir à un camp opposé à celui de la bourgeoisie et de tous ses serviteurs politiques. C'est ce qu'il y a de plus utile à faire dans ces élections, parce que l'enjeu n'est pas de savoir qui sortira vainqueur du second tour. On le sait d'avance, les jeux sont faits. Celui qui sortira des urnes en 2017 sera un ennemi des travailleurs. Choisir parmi ses ennemis celui qui piétinera nos intérêts à partir de mai 2017, c'est accepter par avance d'être trompé et sacrifié. Il ne faut pas marcher dans cette duperie électorale. Mais puisqu'on nous donne la parole au premier tour, eh bien il faut la prendre pour s'exprimer, pour mettre en avant nos préoccupations de travailleurs, d'ouvriers, de chômeurs, de retraités, pour défendre nos propres intérêts matériels et politiques. À les entendre tous, de Le Pen jusqu'à Hollande, les seuls problèmes du pays, ce sont Calais, les migrants, la sécurité et la montée du communautarisme. Leur campagne n'a qu'un seul but, celui de faire des voix en s'appuyant sur les peurs et en flattant les préjugés racistes. C'est de la diversion et c'est de la démagogie, car ils ne sont pas plus capables de maîtriser l'arrivée de migrants que d'éradiquer le terrorisme. Ni Hollande, ni Sarkozy, ni Le Pen ne freineront l'arrivée des migrants. Ils peuvent construire des murs, des barbelés, creuser des fossés, mettre des miradors. Et d'ailleurs, c'est ce qui se fait dans un certain nombre de pays déjà. Ils n'empêcheront pas la vague migratoire. On a tous en tête les images d'Alep et de ces villes bombardées en Syrie et en Irak. Alors on sait que tant que les hommes auront des jambes et de l'énergie pour marcher, ils essayeront de sauver leur peau, comme nous tous le ferions dans la même situation. L'extrême droite, la droite, multiplient les pétitions contre l'accueil des réfugiés. tandis que le gouvernement se targue de défendre une politique prétendument plus humaine. Mais regardez comment les socialistes présentent les migrants, non pas comme des victimes qu'ils sont, mais comme des indésirables, non pas comme des femmes et des hommes qui sont nos frères, mais comme des fardeaux. Qu'un élan de solidarité s'exprime, et cela arrive plus souvent qu'on le croit, et la propagande se met en marche pour marteler qu'il ne faut pas créer d'appel d'air. Tout est fait pour que nous taisions nos sentiments de fraternité. Tout est fait pour nous convaincre que les migrants représentent une menace pour nous et nos enfants. C'est de la démagogie, aussi stupide qu'infecte. Le résultat de tout ça, c'est que ces dirigeants rendent la vie de ces femmes et de ces hommes plus insupportable encore. Et ces dirigeants sont aussi des pyromanes. Ils excitent les préjugés les plus abjects dans la population et ils poussent les plus racistes à passer aux actes. Mais attention, les victimes de cette démagogie ne seront pas seulement les migrants d'hier et d'aujourd'hui. Nous en payerons tous les conséquences. Car les politiciens ne spéculent pas que sur des préjugés et des fantasmes. Ils invoquent aussi le chômage élevé, la pénurie de logements, la saturation de notre système de soins. C'est une façon de matraquer l'idée qu'il n'y a déjà pas assez pour tout le monde. Cela leur sert à justifier leur politique anti-ouvrière, en essayant de nous enfoncer dans le crâne qu'il est vain de revendiquer et qu'il faut se serrer la ceinture. C'est une façon de nous mettre en concurrence permanente, de nous opposer les uns aux autres, ceux qui ont un travail à ceux qui sont au chômage, en intérim ou en CDD. C'est un instrument de division. Avec cette campagne, ils veulent nous enfumer pour ne pas avoir de compte à rendre sur la misère qu'ils ont contribué à fabriquer et pour cacher les milliards accumulés dans les mains d'une minorité. Ils ne cessent de répéter qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais ce sont eux qui la fabriquent, la misère, en pillant les richesses des pays pauvres partout sur la planète et en s'acoquinant avec les pires dictatures. Ils la fabriquent, la misère, en ce moment, en Irak, en Syrie, par leurs manœuvres et leurs bombes. Ils la fabriquent, la misère, aussi, ici, par le chômage et la précarité. Ils fabriquent même un océan de misère dans le monde pour que la minorité capitaliste s'enrichisse toujours et encore. Alors, dans cette élection, montrons qu'il y a des travailleurs qui ne se trompent pas d'ennemis. Affirmons que les travailleurs n'ont pas à se battre entre eux pour se partager la misère, mais au contraire, qu'ils ont à imposer le contrôle sur les richesses qu'ils produisent pour s'opposer à ce qu'elles soient confisquées par une minorité. Affirmons qu'il y a bien deux mondes dans la société, celui des riches et celui des pauvres, celui des exploiteurs d'un côté et de l'autre côté, le monde des exploités qui regroupe des femmes et des hommes de toutes origines et de toutes confessions. Et affirmons pour tous les exploités de cette terre la liberté de circulation et d'installation. Accueillons les migrants à bras ouverts. Ils ont leur place dans le combat qui est le nôtre. Combattre la minorité capitaliste qui domine le monde et nous pousse dans la barbarie. Du FN jusqu'à Hollande, tous se complaisent dans des postures autoritaires et répressives. Mais ce n'est pas cette course à l'échalote sécuritaire qui empêchera les vocations terroristes de naître ou qui diminuera la délinquance. Notre société est malade, elle pourrit de l'intérieur. Que des jeunes de 15, 18 ou 20 ans rêve de se faire exploser et de tuer le plus de monde possible pour aller plus vite au paradis est une des expressions de cette décadence. Il n'y a plus d'idéal, plus de projet collectif dans la société. C'est le culte de la réussite et de l'enrichissement personnel. On est censé s'extasier devant les milliardaires alors que la misère est partout étalée sous nos yeux. La société capitaliste marginalise et exclut. Elle nous met en concurrence permanente. Elle nous force à nous forger une carapace. Elle nous pousse au chacun pour soi, à l'isolement et même à la haine de l'autre. C'est cette déshumanisation qui fait le lit de la délinquance et du fanatisme religieux. Alors il est facile pour ces politiciens de tenir des discours électoralistes et de promettre toujours plus de répression. En revanche, changer cette sinistre situation, c'est une autre chose. Mais nous, nous n'avons pas le choix. Il nous faut changer cette situation. Et le changement, ce sera le renversement de la bourgeoisie. Et il dépend du combat des travailleurs, parce qu'ils représentent la seule force sociale, les travailleurs, capable de construire une société de justice, de fraternité, débarrassée des classes sociales et de l'exploitation. Du côté de ce qu'on appelle la gauche de la gauche, on est bien loin de ces perspectives, y compris au Parti communiste. Actuellement, le PCF se déchire sur la question de savoir s'il présente un candidat issu de ses rangs ou s'il choisit de soutenir un politicien genre Mélenchon ou un autre venant directement du PS genre Montebourg. Ces hésitations sont significatives de sa politique. Que cherche le Parti communiste depuis des mois ? Un bon candidat de gauche. Alors que de plus en plus de travailleurs ont compris qu'ils avaient autant d'ennemis à gauche qu'à droite, la direction du Parti communiste leur propose de retomber dans le même piège et dans les mêmes illusions. La direction du PC ne ferme toujours pas la porte à une candidature Montebourg. Montebourg, qui a été un des exécutants de la politique de Hollande, qui a applaudi au pacte de responsabilité et à tous les cadeaux patronaux, qui s'est félicité des accords de compétitivité imposés aux travailleurs à coup de chantage patronal. C'est dans ce genre de politiciens que les travailleurs devraient placer leur confiance. Les perspectives politiques du PC ne sont pas fondées sur les intérêts et les luttes du monde ouvrier. Elles sont fonction des alliances électoralistes qui n'ont pour seul objectif que de préserver les postes de ces élus à l'Assemblée nationale, dans les régions, les départements ou les municipalités. Ce sont des calculs stériles, illusoires et démoralisants pour ses propres militants. Exactement comme il l'a fait avec Mitterrand, puis avec Jospin, le PCF veut recréer des illusions dans la gauche gouvernementale et refaire une virginité à des politiciens qui pensent en bourgeois et sont attachés à l'ordre bourgeois. En remplaçant la lutte de classe par l'électoralisme, le PC a désarmé les travailleurs dans le passé, les a écœurés et désorientés, au point que certains aujourd'hui regardent du côté de Le Pen. Et ils continuent dans la même voie. Alors ce que nous avons à dire à ceux des militants et des sympathisants du Parti communiste, pour qui cette étiquette « communiste » a encore une signification, à tous ceux qui n'ont pas renoncé à agir auprès des travailleurs dans les entreprises et les quartiers où ils sont, c'est retrouver confiance dans les travailleurs, retrouver les idées qui ont été à la base de la fondation de votre parti. Le PC s'est créé au début des années 1920 pour rompre avec le Parti socialiste, justement, et sa politique d'union sacrée avec la bourgeoisie et son État qu'il avait eue pendant la Première Guerre mondiale. Le PC s'est créé pour lever le drapeau de la Révolution et affirmer la nécessité que les travailleurs renversent la bourgeoisie et prennent le pouvoir. Est-ce que la société capitaliste a changé depuis ? Ses idées et ses perspectives ont-elles failli ? Non. C'est l'électoralisme et le réformisme qui ont fait faillite et que nous payons aujourd'hui. Et on le payera encore demain si on s'en remet à Mélenchon, comme la direction du PC semble aujourd'hui le souhaiter. Mélenchon ne se présente même pas sur le terrain des intérêts des travailleurs. Non. Mélenchon est devenu le premier écologiste du pays. Et surtout, comme tous les autres, il défend une politique pour la France. Comme s'il pouvait y avoir une bonne politique, à la fois pour le grand patronat et pour les travailleurs. Comme si leurs intérêts n'étaient pas contradictoires. Alors Mélenchon est en guerre contre beaucoup de choses, contre les traités européens, contre la politique de l'Allemagne, contre les retraités allemands aussi, contre les États-Unis, contre la Ve République, contre les médias aussi souvent, mais pas contre le grand patronat, pas contre son pouvoir sur l'économie, pas contre le système d'exploitation qui est à la base de la condition ouvrière. Avec d'autres, y compris Le Pen ou Dupont-Aignan, Mélenchon se veut le champion du souverainisme, de l'indépendance de la France. En prétendant que l'Union européenne et ses traités sont responsables de tous les maux des travailleurs, il détourne l'attention des travailleurs des vrais responsables du chômage et des bas salaires. Les patrons bien français n'ont besoin d'aucun diktat de Bruxelles pour démolir les droits des travailleurs ou tirer les salaires vers le bas. La loi travail, les 6 millions de chômeurs, ce n'est pas la faute de Bruxelles, mais des capitalistes et des gouvernements bien de chez nous. Opposer les pays les uns aux autres, c'est opposer les travailleurs entre eux. Et c'est ainsi que Mélenchon en est arrivé à copier Le Pen en disant, je le cite, « Les travailleurs détachés venus de Pologne ou d'ailleurs volent le pain des travailleurs ici. » Ce qu'il a encore confirmé en expliquant que s'il était élu, plus aucun travailleur détaché n'entrerait en France. Eh bien, nous, nous disons qu'aucun travailleur n'a jamais volé son pain. Son pain, il le gagne à la sueur de son front et de ses muscles. Les vrais voleurs dans cette société, ce sont les exploiteurs. Et nous affirmons que le droit à un emploi est un droit pour tous, quelle que soit sa nationalité. Au lendemain de l'élection, qu'est-ce qui changera pour nous? Nous irons au travail. Beaucoup d'entre nous, hélas, iront pointer à Pôle emploi ou à l'agence d'intérim. Et on se retrouvera confrontés au même chef, au même patron, aux mêmes actionnaires, invisibles, mais tout puissants. On se retrouvera confrontés à son banquier, à son propriétaire, qui n'admet aucun retard de paiement, quand bien même on a perdu son emploi. On se retrouvera confronté au pouvoir de l'État, qui sait dérouler le tapis rouge pour les plus riches, mais qui est sans pitié pour les classes populaires. Rien de fondamental n'aura changé, parce que ces élections ne changeront pas notre condition d'exploiter, ni cet ordre social dominé par l'argent et la bourgeoisie. La nouveauté, ce sera juste que le petit personnel politique aura changé. Les riches auront un nouveau président de la République à leur disposition. Et cela, beaucoup de travailleurs le savent aujourd'hui, parce qu'élection après élection, ils en font l'expérience. Ils savent qu'il ne faut pas prendre les promesses des politiciens pour argent comptant. Mais faute de lutte sociale d'ampleur, toute la vie politique se résume à ces élections. Chaque campagne électorale donne lieu à un spectacle où, jour après jour, mois après mois, les politiciens relayés par les médias nous jouent la comédie du changement. Et c'est ainsi que repart la machine à fabriquer des illusions électoralistes. C'est ainsi que les électeurs sont dressés pour voter utile, essayer quelqu'un qui n'a jamais gouverné, ou voter pour le moins pire. Mais encore une fois, le mieux que nous pouvons faire dans cette élection en tant que travailleurs est de nous exprimer. Beaucoup parleront avec mépris d'un vote de contestation, de protestation, ou encore un vote d'expression. Eh bien, nous le revendiquons. Nous appelons les travailleurs à voter pour exprimer leurs intérêts matériels et politiques. Cela ne changera pas la société. Cela ne modifiera pas le rapport de force entre le patronat et le gouvernement. Oui, c'est vrai. Parce qu'il n'y a que l'action collective des travailleurs qui peut le faire. Qu'un mouvement social puissant, comme ceux qu'on a connus dans le passé, en mai-juin 1936 ou en mai 68. Mais seuls ceux qui se battent pour leurs idées, pour leurs objectifs, pour leurs perspectives, peuvent influencer l'opinion et l'état d'esprit des travailleurs. La résistance des travailleurs dépend de ce qu'ils ont dans la tête. Alors dire que l'on n'est pas d'accord, exprimer nos intérêts contre nos ennemis, c'est la première chose à faire, c'est le premier acte de résistance. Nous serons minoritaires dans ce scrutin ? Alors beaucoup nous disent « à quoi ça sert de voter pour vous ?» Eh bien, ne craignons pas d'être minoritaires. À quoi cela a-t-il servi de voter avec la majorité pour élire Hollande, quand cela conduit à élire un adversaire ? Aujourd'hui, combien de travailleurs se mordent les doigts d'avoir voté Hollande en 2012. Et il faudrait recommencer avec un autre. Chercher à voter pour le moins pire est également un piège. La situation, de toute façon, elle ne peut qu'empirer pour le monde ouvrier s'il ne se bat pas collectivement pour se défendre. Quant à s'abstenir, ce n'est pas une preuve de radicalisme ou de conscience. S'abstenir, c'est se résigner, c'est se taire. Encore une fois, si nous ne défendons pas nos idées, qui le fera à notre place? Personne ne mènera le combat à notre place. On peut nous enlever beaucoup de choses. Notre travail, notre salaire, voire même notre logement. Mais on ne peut pas nous enlever nos idées, nos convictions, notre dignité. Alors il faut les exprimer. Et il n'y a pas de petits combats, pas de petits gestes. Quand on est minoritaire, justement, la moindre voix compte et peut porter. Alors il faut entraîner le maximum de ceux qui nous entourent à joindre leur voix à la nôtre. Nous sommes à contre-courant. Mais quand le courant pousse dans une direction aussi réactionnaire, aussi infecte, voire aussi barbare, quand le courant pousse à la soumission et à la résignation, oui, nous pouvons être fiers d'être à contre-courant, en fait. Alors, Nathalie Arthaud sera la candidate de Lutte ouvrière. Elle se battra et représentera nos idées sur les plateaux de télé chaque fois qu'on lui donnera la parole. Et elle le fera du mieux possible. Mais sa campagne sera ignorée par les médias jusqu'aux 15 derniers jours où là, ils seront contraints de l'inviter. Alors, il ne faut pas compter sur les médias. Pour que cette campagne soit réussie, il faut que ce soit notre campagne à tous. Il faut que ce soit votre campagne. Il faut que ce soit une campagne militante. Il faut que nous multiplions les discussions avec nos camarades de travail, dans notre famille, auprès de nos amis, dans notre voisinage. Il faut essayer de les convaincre et de leur donner envie de s'exprimer en tant que travailleurs, salariés, chômeurs. Rien n'est à négliger. Toutes les discussions seront utiles. Cela dépend de la ténacité et de la force de conviction de chacun d'entre nous. Si nous sommes plusieurs milliers à entraîner 5, 10, 50 personnes à voter, et si ces personnes en entraînent elles-mêmes une ou deux, nous aurons fait une bonne campagne. Cela nous donnera aussi l'occasion de nous rassembler et d'associer des jeunes et des moins jeunes à cette campagne. Et cela nous donnera la possibilité de renforcer les équipes militantes pour construire le parti qui est nécessaire au monde du travail. Aujourd'hui, du FN au PS, la bourgeoisie a une variété de partis à sa disposition. Mais la classe ouvrière n'en a aucun qui exprime ses intérêts de classe. Il nous faudrait un parti des travailleurs, un parti qui dissipe les illusions, démasque les faux amis, cible les vrais ennemis, diffuse sur chaque question un point de vue communiste. Oh, bien sûr, un tel parti ne se formera pas en un jour, évidemment. Il faudra surtout des luttes massives et déterminées pour le faire. Mais les élections peuvent y contribuer à une petite échelle. Alors nous faisons appel à vous tous pour qu'on utilise toutes les possibilités que la campagne nous offre pour faire avancer ces idées et associer de nouveaux camarades à notre combat. Parce que dès que les urnes seront rangées, notre situation sera la même, mais notre combat continuera. L'Élysée, vous savez, ni Arlette, ni Nathalie n'en ont jamais rêvé. Ni Nathalie, ni aucun camarade de Lutte ouvrière n'aspire à prendre quelque responsabilité que ce soit dans ce système basé sur l'exploitation et l'oppression. Et même, nous voulons le renverser, ce système. Je l'ai déjà dit, le pouvoir d'État, nous voulons le conquérir avec la classe ouvrière. Nous sommes communistes et révolutionnaires et nous avons la conviction que les travailleurs peuvent établir leur propre pouvoir étatique et s'en servir pour exproprier la bourgeoisie et créer un monde débarrassé de l'exploitation et capable de répondre aux besoins de tous. Cela n'est évidemment pas l'enjeu de ces élections. Mais cela signifie quand même qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. Ceux qui voteront pour Nathalie Arthaud voteront pour faire entendre leur camp, le camp des travailleurs. Leur vote ne servira pas de tremplin à une arriviste. Il ne sera pas déformé. Il sera sans ambiguïté. Personne ne pourra se tromper sur le sens de ce vote. Nombre de gens et de catégories sociales autres que la classe ouvrière sont suffisamment en colère pour chercher à exprimer leur mécontentement. Et ils l'exprimeront de bien des façons différentes dans cette élection. Mais le mécontentement qui s'exprimera sur la candidature de Nathalie aura un caractère ouvrier. Ce sera un vote de rejet de tous ces politiciens prêts à servir la soupe à la bourgeoisie. Ce sera un vote qui affirmera les droits, les intérêts et les perspectives du monde du travail. Ce sera un vote qui affirmera que, quel que soit l'élu en 2017, nous savons que nous serons attaqués et nous ne nous laisserons pas faire. Ce sera un vote de dignité et de conscience ouvrière qui affirmera que la société peut se passer de la bourgeoisie, mais pas des travailleurs qui font tout tourner et produisent toutes les richesses.